Eh bien, ce soir, nous allons reprendre le texte biblique que nous avions commencé la dernière fois. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais demander à notre frère Emmanuel Georges s'il veut bien prier pour remettre ce moment. Eh bien, comme nous avons commencé ce livre de Josué, c'est le livre qui nous parle de la conquête du pays de Canaan. Et il y a donc, on a vu comment Josué a été exhorté à se tenir près de la parole et à la méditer, à l'approfondir, etc. Hein. Je ne veux pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais Dieu lui avait dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et puis la dernière phrase qu'il lui dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. » Voilà. Donc, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, nous allons lire. « Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain. » pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui vous est propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. » Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Voilà. C'est comme je vous ai dit, Josué a transmis au chef du peuple. Il y avait le peuple d'Israël était organisé. Ce n'était pas une bande, ni une meute, ni des gens qui sont partis n'importe comment. Mais il y avait, quand vous lisez l'Exode et les livres suivants jusqu'à Josué, vous voyez combien tout était organisé. Dieu avait vraiment fait en sorte que le peuple soit organisé, même dans la marche. Il y avait un ordre et certaines tribus marchaient à un certain endroit de la foule et puis une autre tribu à un autre endroit et tout était bien organisé et il y avait aussi des chefs du peuple. Dieu n'est pas dans l'indiscipline et la désorganisation. S'il y a des personnes qui se sont laissées prendre à cette idée que dans l'Église, n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'ordre, eh bien, ils se sont trompés, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et pas un Dieu de désordre. Et même dans un peuple aussi nombreux que le peuple d'Israël, eh bien, il y avait un ordre de marche, et il y avait des chefs du peuple. Et Dieu a choisi dans l'Église des responsables, des personnes qui ont une certaine autorité, et ces personnes-là, elles sont responsables devant Dieu, mais aussi devant l'Église, pour faire tout ce que Dieu demande. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a eu pendant des années une contestation par rapport au ministère. Et l'Église en a souffert, et elle en souffre encore, de ce que le ministère pastoral était remis en question, et on regardait les pasteurs comme des picassiettes, comme des paresseux, comme des bons à rien. Et si on ne le disait pas franchement, eh bien, c'était néanmoins regardé comme cela. Et je me rappelle avoir dû défendre le ministère pastoral et avoir dû dire non, le ministère pastoral est biblique. La parole de Dieu enseigne qu'il doit y avoir des pasteurs. Mais les gens disaient non, ce n'est pas biblique. Alors ils faisaient la confusion, c'est ce que je n'ai pas dit, après je me suis dit, il faudrait que tu le dises ça. Ils faisaient la confusion entre les pasteurs, parce qu'il y a trois titres qui sont donnés. Il y a pasteur, il y a évêque, et il y a ancien. Donc il faisait une distinction entre les trois et il disait, ce sont les anciens dans l'Église. Ce ne sont pas les pasteurs. Les pasteurs, c'est inventé, ce sont les anciens. Donc ce sont les personnes qui ont une certaine autorité, une certaine, etc. Donc c'est parce qu'on a joué sur les mots. Mais la parole de Dieu, eh bien, emploie trois termes pour la même personne. C'est-à-dire que cela parle à chaque fois de trois situations différentes, mais c'est toujours les mêmes personnes. Parfois ils sont appelés anciens, d'autres fois ils sont appelés évêques, d'autres fois ils sont appelés pasteurs. Mais il est vrai que le terme d'ancien parfois s'applique à d'autres personnes, hein. Mais parfois les diacres sont aussi appelés des anciens. Mais néanmoins, en général, le terme ancien, c'est le terme pasteur. Donc aujourd'hui, même ces groupes de chrétiens qui ne voulaient pas avoir de pasteur reconnaissent combien il est nécessaire qu'il y ait un responsable ou des responsables dans l'Église. Mais déjà, à l'époque de Moïse, c'est-à-dire 1500 ans à 1600 ans avant Jésus-Christ, eh bien, Dieu avait organisé le peuple et il y avait des anciens. Il y avait des personnes responsables. Donc, c'était des personnes qui étaient entre Josué et le peuple. Alors, quand Josué avait quelque chose à dire, il le disait à ces personnes et ces personnes le transmettaient au peuple. Donc, ce que j'avais dit aussi, c'est que il devait préparer des provisions. En fait, quand on regarde bien, le pays, c'était une conquête. Il y avait une guerre. Et on ne fait pas ces choses-là n'importe comment. Il doit y avoir une organisation. Bon, il est bien évident que si on veut faire une application à nous-mêmes, nous ne sommes pas en guerre, avec un autre peuple. Nous ne faisons pas les guerres de l'Éternel avec un fusil à la main ou avec des armes de ce genre. Mais il est vrai qu'il y a quand même une guerre. Il y a la guerre de l'Éternel. C'est Satan est l'ennemi de Dieu et il est en guerre contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est en guerre contre Satan. C'est Satan qui s'est mis en guerre contre Dieu. Et à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu, il est dit que nous sommes passés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous étions de ce monde. Et nous ne sommes plus de ce monde. Nous étions perdus et maintenant nous sommes sauvés. Il y a tout à fait un changement de camp, si je peux dire. Et à partir de ce moment-là, nous sommes dans le camp de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est notre chef. Et c'est vers lui que nous tournons les regards. Et il y a une guerre contre le monde, contre Satan, contre le péché, contre parfois nous-mêmes. Contre ceux qui se rebellent, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. Mais il y a aussi une conquête. Il y a des âmes perdues. Il y a un monde perdu. Il y a des quartiers qui n'ont jamais entendu l'évangile. Il y a des. Je me rappelle, c'était la mission intérieure à Londres. Qui est bon, maintenant, c'est sans doute autre chose, ça ne doit plus porter ce nom-là. Mais au 19e siècle, il y avait ce que les Anglais avaient appelé la mission intérieure. Et c'était à Londres. Et à Londres, il y avait. Ces chrétiens avaient quadrillé la ville. Hein, et ils avaient dit, voilà, tous les 10 000 habitants, il faut un pasteur. Au moins un évangéliste. Un colporteur. Quelqu'un qui s'occupe d'une population, tous les 10 000 habitants. Et ils priaient pour demander à Dieu le soutien financier et pour qu'il donne les ouvriers pour qu'ils puissent placer ces personnes, tous les 10 000 habitants, dans la ville de Londres. Et quand ils regardaient, mais ils disaient, mais ce quartier est très délaissé, nous n'avons pas encore envoyé un missionnaire, il va falloir que nous organisions des réunions de prière, de jeûne et de prière, pour que Dieu nous donne l'ouvrier et les moyens financiers pour soutenir cet homme et cette famille. Souvent, c'était toute une famille. Donc, il y avait une stratégie. Ces chrétiens-là pensaient à comment ils allaient évangéliser et gagner Londres. C'est si il n'y a pas une stratégie, si on n'a pas prévu les moyens de subsistance, si on n'a pas pensé à comment on va agir, comment on va faire, eh bien, nous n'avons rien. Nous n'obtiendrons rien. Il n'y a pas de conquête, il n'y a rien. C'est malheureusement, nous n'imitons pas l'exemple de ces personnes qui ont eu une grande sagesse et qui comprenaient qu'il y avait une guerre et qu'il fallait s'organiser. On a parfois du mal à s'organiser parce que on veut laisser, c'est notre idée, de plus de place à l'initiative et à Dieu, que Dieu puisse faire ce qu'il veut. Mais Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Ça, c'est une règle. Quand j'étais à l'Institut biblique, un de mes professeurs m'a dit un jour, Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, Dieu ne fait rien avec eux. C'est ceux qui n'ont pas de stratégie, ceux qui n'ont pas pensé comment on va faire, comment on va aller plus loin, eh bien, n'auront rien. C'est comme cela que l'on peut dire, on accumule des provisions. Et c'est vrai qu'il y a des provisions qu'on accumule individuellement, mais aussi en tant que groupe, eh bien, on est responsable pour s'organiser. Et il y a des personnes qui, dans l'Église, entreprennent des choses, font. On parlait tout à l'heure un peu avec Tristan, des personnes qui ont des idées. Et il y a des personnes qui ont des idées géniales, vraiment. Et ces personnes-là, malheureusement, eh bien, comme elles n'en parlent pas aux autres personnes de l'Église, elles font un travail toutes seules, et elles sont toutes seules aussi à prier. Et donc le travail n'a pas la même le même impact, n'a pas la même puissance, parce que ce n'est pas Dieu a dit qu'il bâtirait son Église. C'est son Église. Alors, c'est l'Église tout entière. C'est l'ensemble de l'Église qui entreprend, qui a une stratégie, qui pense à ce qu'il faut faire et comment le faire, et qui organise des réunions de prière, des moments où comment on évangélise, comment on fait ceci, comment on fait cela, et dans quelle direction on doit aller. Et c'est bien parfois, au début d'une année, de se réunir et de dire. Qu'avons-nous fait l'année passée? Est-ce que nous avons accompli quelque chose? Et puis se dire, mais quels objectifs on va avoir cette année? Quel est le plan? D'abord, à mettre sous l'œil de Dieu, hein, dans la prière, mais avoir un plan et savoir exactement où on va, comment on organise, comment on fait. Et c'est justement préparer ses provisions. Et si vous avez, on revient à l'armée, je ne suis pas militariste, hein. J'en parle parce qu'il faut en parler, ce n'est pas mon truc. Mais imaginez-vous un soldat qui fabrique ses munitions sur le champ de bataille. Ou qui se dit, eh ben, tiens, mon fusil a besoin d'être nettoyé maintenant. Je vais le nettoyer, entre deux coups de fusil, je vais nettoyer mon fusil. C'est impensable. Il y a la moindre logique, c'est de ne pas agir de cette manière-là. C'est dans les temps de paix, de tranquillité, qu'on se prépare. Et une fois que l'on est préparé, quand il y a un affrontement, eh bien, on peut faire face et espérer avoir une victoire. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. On se prépare. C'est, il y a des gens, des jeunes, qui sont partis n'importe comment. Ils avaient de bonnes idées et ils sont partis. Je me rappelle, c'était ma jeunesse à moi. C'était, je vous avouer mon âge, j'avais 18 ans en 68. Donc j'ai bientôt 64 ans. Ne faites pas de calcul, c'est pas la peine. Mais 18 ans en 68, on avait envie de changer le monde. On ne pensait que le monde on était dans nos mains et qu'on avait tous les moyens pour changer le monde. Et vous ne pouvez pas savoir toutes les initiatives, toutes les choses qui ont été entreprises, comment on a pu aller à droite et à gauche. Et je n'étais pas en arrière par rapport aux autres. C'est pour moi, chanter des chansons de Johnny Hallyday et tout ça, pour moi, c'était impensable. On était deux ou trois copains. Et c'était des chansons engagées. Comment on va changer le monde? Comment il faut que ça change? Comment les choses peuvent être différentes? C'est voilà ce qui est. Et on a entrepris des choses. Et quand on est devenu chrétien, eh bien, on avait envie de changer les choses. Mais il n'y avait pas de stratégie. Il n'y a pas vraiment quelqu'un pour organiser tout, pour organiser toutes ces énergies. Et malheureusement, beaucoup de choses ont tourné court. Et il y avait des groupes de jeunes qui s'organisaient, on formait un quatuor, on jouait de la guitare, et hop, c'était ça y est, il y avait un quatuor qui faisait des réunions d'évangélisation. Je me rappelle de quelque chose comme ça, hein. Et puis il y avait un duo, et puis je me rappelle de quelqu'un qui est parti sur les plages, et puis il a annoncé l'évangile, et puis il y en a un autre qui l'a fait, et puis un autre, et il y avait des bandes qui sillonnaient les plages du Roussillon et de l'Atlantique et de la Méditerranée pour annoncer l'évangile. Mais il n'y avait rien d'organisé. Si bien que les gens, il y a eu des conversions. Et ils partaient. Ces gens, ceux qui avaient évangélisé, partaient et ils laissaient les âmes sauvées, orphelines, sur la plage, sur le sable. Excusez-moi l'expression. Il n'y avait pas d'organisation. Et ça a été un beau travail pour les sectes. Parce que les sectes venaient après. Mais les chrétiens ne prenaient rien de tout cela au sérieux. C'est parce qu'il n'y avait pas une organisation. C'est parce qu'il n'y avait pas des chefs. Parce qu'il n'y avait pas, on n'a pas préparé les provisions, on n'avait pas une stratégie. Tout est là. Il faut qu'on ait une stratégie, il faut qu'il y ait des choses organisées sous le regard de Dieu. Il y a une stratégie charnelle, mais toute stratégie n'est pas charnelle. Et malheureusement, il y a dans notre manière de penser souvent que dès que l'on a une stratégie, eh bien, on ne fait plus confiance à Dieu. Et pour faire confiance à Dieu, eh bien, il faut n'avoir rien de vraiment organisé et on entreprend les choses. L'un a une idée d'une chose, l'autre a une idée d'une autre chose. Mais on oublie que nous sommes une église. Et l'église, le travail, se fait ensemble. Nous sommes tous ensemble, solidaires dans l'église. Et c'est, nous ne pouvons pas tous faire de l'évangélisation. On ne peut pas être tous dans les rues. Mais néanmoins, tout le monde devrait savoir qu'il y a de l'évangélisation. Tout le monde devrait savoir que à tel jour, à tel moment, il y a une équipe d'évangélisation qui va dans un certain quartier pour le faire. Et là, prier pour cette chose-là. C'est la nécessité d'organiser. Donc je dis cela parce que il est dit, préparez-vous des provisions, parce que dans 3 jours, vous partez. Faites bien vos comptes, sachez exactement comment vous allez vous organiser, parce que vous partez dans 3 jours, c'était dans ce que Josué leur a dit, mais il n'a pas dit, et vous reviendrez dans un an. Rien qui est dit de ce côté-là. Et leur guerre a duré des années. Ils ne sont pas partis pour un jour ou pour une semaine. Quand il a dit préparez-vous des provisions, il fallait avoir des provisions, et même pour longtemps. Donc, Je voudrais dire que là, il y a une fausse spiritualité qui fait que on ne fait pas la volonté de Dieu en pensant que, en agissant n'importe comment, en faisant les choses au hasard, en étant désorganisé, on pense que l'on est soumis à Dieu et que l'on fait confiance à Dieu. Mais tout cela, c'est faux. Parce que quand vous regardez le plan de Dieu et l'œuvre de Dieu, vous verrez combien l'œuvre de Dieu est organisée. Et c'est, je peux vous dire une chose, un organisme est organisé. Mais dès que un organisme est désorganisé, il est malade et est bientôt mort. Ça s'appelle un cancer, ça s'appelle tout ce que vous voulez. Mais il semble que certains ont disons, une santé d'une certaine manière, d'autres c'est d'une autre. Mais il y a dans tout cela une organisation. Un organisme est vivant. Il est vivant parce qu'il est organisé. Et c'est le plan de Dieu que les choses soient organisées et qu'elles soient conduites comme il le faut. Alors, on revient à la suite du passage. Il y avait deux tribus et demie qui avaient reçu du territoire de l'autre côté du Jourdain, ou plutôt du côté du Jourdain sur lequel ils étaient en ce moment-là, mais pas dans le pays que Dieu avait promis. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'était des Amoréens qui ont fait la guerre à Israël, et Israël s'est défendu et ils ont occupé un territoire qui, en fait, est arrivé sans même qu'ils l'aient cherché. Ils n'ont pas fait la guerre, on leur a fait la guerre. Voilà. Mais ces deux tribus et demie s'étaient déjà installées. Ils avaient des maisons, ils avaient des troupeaux, ils avaient des pâturages, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais Moïse leur avait fait jurer que le jour où le reste du peuple rentrerait dans le pays de la promesse pour le conquérir, eux ne resteraient pas en arrière et qu'ils accompagneraient le peuple dans cette conquête. Cela fait penser à la solidarité. On n'est pas tout seul dans la conquête. C'est pas voilà, ça c'est ceux-là vont partir, nous, eh bien, tout est fait, hein. Tout est arrivé, il n'y a pas de problème. Mais on doit conquérir ensemble. Et je me rappelle ce passage dans les évangiles, il y avait la pêche miraculeuse, les filets se rompaient. Et quand les filets commençaient à se rompre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont appelé ceux des autres barques pour venir les aider. Parce que eux, leur barque était tellement pleine qu'elle coulait, et les autres avaient des barques tellement vides qu'ils pleuraient sur le poisson qu'ils n'avaient pas dans la barque. Et alors, ils disaient, bien, venez approchez-vous parce que nous avons trop, et nous avons besoin que les barques soient remplies. Là, eh bien, le peuple devait s'unir et se mettre ensemble à la conquête du pays. Les uns avaient déjà tout en possession, tout entre leurs mains, mais il fallait qu'ils accompagnent les autres pour conquérir le pays. Mais la parole qui est dit au verset 15, je vous ai dit tout à l'heure qu'il leur a dit de préparer des provisions. Il n'aura pas dit quand ils reviendraient. Mais il y a une indication au verset 15, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos. Voilà, jusqu'à ce que. C'est-à-dire aussi longtemps que le reste du peuple n'est pas en possession de son héritage, alors vous devez continuer à conquérir avec le reste du peuple. Alors, disons, le livre de Josué ne nous explique pas comment pendant toutes ces années, s'ils sont revenus de temps en temps, parce que la guerre n'était pas tout le temps. Il y a eu de grandes batailles, mais il y a eu des périodes où il n'y avait pas de bataille. Et peut-être qu'ils revenaient pendant ces périodes où il n'y avait pas de bataille. Rien n'est dit à ce sujet, donc il n'y a rien à dire. De plus, je ne peux que souligner le fait que rien n'est dit. Et je pense que quand même, ils ont dû retourner, ils ne sont pas restés 10 ans. de l'autre côté du Jourdain, ils ne sont pas retournés voir leur famille. C'est possible qu'ils soient retournés de temps en temps, dans les périodes de calme et les périodes où il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas vraiment de conquête. Mais Dieu, eh bien, nous demande d'aller jusqu'à ce que. Et c'est très important. Beaucoup de chrétiens vont jusqu'à un certain point dans ce qu'ils font pour Dieu. Mais Dieu nous demande jusqu'à ce que. Jusqu'au bout. C'est Dieu lui-même qui fixe les limites. Nous, nous avons tendance à fixer les limites en dessous de ce qu'il faut. Mais Dieu fixe la limite et dit jusqu'à ce que. C'est quand on prie, c'est jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Pas jusqu'à ce que nous soyons fatigués. Pas jusqu'à ce que nous ayons assez de prier. Pas jusqu'à ce que les autres nous disent tu pries trop ou tu en fais pas, tu t'occupes pas du reste. Il y a des choses, c'est jusqu'à ce que. J'ai lu quelque chose il y a 2 jours. C'était un frère en Christ et un jour il est entré dans sa chambre. Il sentait bien que sa vie spirituelle n'était pas ce qu'elle était, ce qu'elle devrait être. Et il a prié, il priait, il pleurait. Et il a dit un jour, je rentre chez moi et je vais me mettre à genoux jusqu'à ce que Dieu me parle, jusqu'à ce qu'il me réponde, jusqu'à ce que. Et il l'a fait. Oh, il n'est pas resté longtemps, hein. Parce que quand on est prêt à aller jusqu'au bout, eh bien, on est prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais quand nous ne sommes pas dans ce jusqu'à ce que, eh bien, nous n'obtenons pas de réponse à nos prières. Mais il y a un moment où on dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu me répondes, j'irai, je parlerai, jusqu'à ce que. Et il y a des chrétiens qui ont fait l'expérience de jusqu'à ce que, pas seulement dans la prière, mais dans le témoignage, dans la communion, dans la présence même de certaines personnes. Et c'est la victoire de Job. C'est un jusqu'à ce que. Il a dit, quand même tu me tuerais, je ne cesserai pas d'espérer en toi. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'au bout, la mort même incluse. J'irai et je croirai en toi et je continuerai à espérer. Il n'y a pas de limite. J'irai jusqu'au bout. Même si le bout est très loin, même si c'est très difficile, j'irai jusqu'au bout. Et ces personnes, eh bien, obtiennent des victoires parce qu'elles sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas jusqu'au bout de leur enthousiasme, ce n'est pas jusqu'au bout de leur rêve, mais c'est jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu exauce. Et c'est comme cela que les choses se sont faites dans le passé. Aujourd'hui, les gens ne vont pas jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin. Et c'est le drame, hein. Je me rappelle d'un banquier je parlais avec lui de ses crédits. C'est les crédits que l'on fait, les petits crédits, on emprunte 2 000 ou 3 000 euros et puis on rembourse sur 4 ou 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle plus. Mais donc c'est des petites sommes. Il m'a dit, le problème, c'est que les gens ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'ils empruntent, ils remboursent, et ils réempruntent ce qu'ils ont déjà remboursé. Alors c'est très très peu. Et ils sont toujours dans les intérêts et dans le crédit. Et il m'a dit, ces crédits-là ne sont jamais remboursés. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils reprennent, ils s'arrêtent, ils reprennent, et ils reprennent. Ils ne vont pas jusqu'à ce qu'ils aient remboursé. Et puis, c'est cela dans beaucoup de choses. Il y a des personnes qui entreprennent des études. Et puis, il y a une petite chose qui les distrait. Et hop, ils partent. Je me rappelle de quelqu'un, il avait commencé des études et puis il a eu l'intention, il a eu une idée géniale. Ah ben si je faisais le tour du monde, il est allé faire le tour du monde. Et les études, ah oh ben quand je reviendrai. Mais quand il revient, c'est fini. Le temps est passé. Et puis le tour du monde, il ne finit jamais. Je me rappelle de deux personnes qui étaient parties comme ça pour faire le tour du monde en vélo. Ah, mais une idée géniale, si vous voulez. Hein. C'est pas, ça m'enthousiasmerait pas une idée comme ça. D'autres choses peuvent m'enthousiasmer, mais pas ça. Mais ils ne vont pas jusqu'à ce que la conquête du pays soit achevée, jusqu'à ce que on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est le problème de notre époque, c'est de ne pas aller jusqu'au bout, de s'arrêter en chemin. C'est les gens qui sont presque arrivés. Ils sont à la dernière station. Je me rappelle de cet homme, c'était un coureur. Je me rappelle plus comment les choses se sont passées, mais il courait bien. Il était en tête de la course jusqu'au moment où il s'est cassé une cheville. Il s'est tordu la cheville, il s'est cassé une cheville. Il lui restait plus qu'un kilomètre. Et je peux vous dire, le kilomètre, il a fait. Il n'est pas arrivé le premier, hein, mais il a fini. Je me rappelle aussi de ce. Je crois que c'était les 24 heures du Mans. Il avait tourné, tourné, tourné toute une nuit, 24 heures, quoi. Et dernier kilomètre, c'est parce qu'il jouait sur l'essence pour pouvoir s'arrêter le moins souvent possible au stand. Donc gagner des secondes. Parce que même si ça dure 8 secondes, et ces 8 secondes, c'est beaucoup. On a fait des kilomètres en 8 secondes sur un bolide. Et il est tombé en panne d'essence, 1 km avant la ligne d'arrivée. Eh bien, il a fini la course en poussant la voiture. Et il a fini. C'était jusqu'à ce que. Il n'est pas arrivé le premier, mais il a fini la course. Ce sont des illustrations, c'est le monde, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cet état d'esprit et qui disent, j'irai jusqu'au bout. Je le ferai et j'irai jusqu'au bout. C'est jusqu'à ce que nous obtenions, jusqu'à ce que nous soyons entrés en possession du pays, jusqu'à ce que les choses soient complètement accomplies, que ça soit fait. Vous savez, quand on va arrêter d'évangéliser, quand il n'y en a plus personne de perdu, quand tout le monde est sauvé, c'est là qu'on arrête d'évangéliser. Quand c'est qu'on arrête de prier, quand tout va bien, qu'il n'y a plus de problème, plus de. Et je vais vous dire, donc c'est jamais. Et on continue, jusqu'à ce que. Et on le fait. Je vous donne des pistes comme cela, mais vous pouvez aussi réfléchir à vos propres jusqu'à ce que dans votre vie et dans votre vie chrétienne. Ils répondirent à Josué, c'est le verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Voilà, ça c'est une bonne réponse. On ira. Et on fera tout ce que tu demandes. Et même les choses qui nous paraissent les plus absurdes à notre sagesse humaine. Dieu parfois demande des choses. Je me rappelle une fois, j'avais à cœur de rendre visite à un frère et une sœur en Christ, un couple chrétien. Et j'ai pris la voiture, je suis parti. Et j'ai fait déjà une bonne dizaine de kilomètres. Dit, mais je ne sais pas où ils habitent. Je savais dans quel village. C'est un village de la côte Saint-Cyprien, pour ceux qui connaissent le. Et Saint-Cyprien, c'est des grandes villes, hein. C'est des villages de la côte. C'est très peuplé. Alors, j'étais en route, j'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas où je vais. Et mais je n'avais pas à cœur de repartir. Je dis, mais Seigneur, conduis-moi. Et j'ai tourné dans une rue. Et puis dans une autre, je me suis garé sur un parking, je regardais, ah ben tiens, ça c'est leur voiture. Et puis je me suis dit, mais leur prénom, leur nom de famille, je ne connais pas. Alors, j'ai regardé JP, Jean-Pierre. Ah oui, Jean-Pierre. Ah oui, c'est ça. J'ai sonné et je n'ai pas dû tourner des heures. C'était insensé. Insensé. Mais j'avais la paix avec le Seigneur et je savais que je devais y aller. Et donc, du point de vue humain, c'était insensé. Et je le raconte non pas comme une performance personnelle, mais comme quelque chose que le Seigneur est capable d'accomplir dans n'importe quelle vie chrétienne. C'est juste. Et le frère était tout content de me voir. Et je lui ai dit, tu sais, je suis venu, mais vraiment, le Seigneur m'a conduit. Hein. Je ne peux pas dire que. J'ai pas tourné, hein, j'ai jamais fait demi-tour. J'ai tourné dans une rue, puis dans une autre, puis dans une autre, et il y avait un parking, une cité, voilà, et c'était là. Et Dieu peut conduire votre vie, et bien plus que ça, bien mieux que ça, dans des choses beaucoup plus sérieuses que ça. C'est pas seulement. C'est le. On peut aller dans la conquête, dans des choses que les gens disent, mais c'est insensé. Et puis des années plus tard, on dit, oui, mais alors là, c'était à cause de cette idée-là que les choses ont vraiment avancé. Oui, mais au départ. C'était insensé. C'était insensé. Voilà. C'est le. Quand on considère le peuple d'Israël esclave en Égypte, on se dit comment un peuple, si nombreux soit-il, peut-il conquérir un territoire immense en quelques années? C'est insensé. C'est impossible. Parce que le problème, c'est les esclaves ne font jamais de bons soldats. Jamais. Il y avait des esclaves qui se sont révoltés du temps des Romains. Et maintenant, je pense que c'est Spartacus. Hein. Ils se sont révoltés, c'était des gladiateurs. Donc, ils maniaient l'épée et tout, et tout, et tout, et tout. Hein. Et des hommes d'épée, ils savaient bien. Manier l'épée, vous avez bien compris. Mais ils n'étaient pas de bons soldats. Parce qu'ils ont fait face aux légions romaines, qui étaient parfaitement entraînées, parfaitement organisées. Et eux, c'était un ramassis de manieurs d'épée. C'était des esclaves révoltés. Rien de plus. Ils n'ont jamais fait une armée. Ils n'ont pas pu tenir devant les légions romaines. Et le peuple d'Israël. C'était un ramassis de gens qui peut-être avaient des armes, peut-être avaient. Mais il fallait un grand miracle de la part de Dieu pour que tout ce peuple s'organise, qu'il est de l'organiser et en faire des conquérants du pays de Canaan. Mais au départ, c'était insensé. Insensé. Et c'est quand on considère ce que nous sommes, eh bien, ce que nous sommes aux yeux du monde. C'est insensé de pouvoir penser que nous puissions avoir le moindre impact sur notre monde, sur notre société, pour changer quoi que ce soit. Mais nous avons la puissance de Dieu. Et c'est la réponse que nous donnons. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. C'est un engagement solennel que nous prenons avec Dieu. Et on dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi dans le chemin que tu veux. Je suis à l'écoute de ta voix. Je me veux me laisser conduire par toi. Tout ce que tu veux, tout ce que tu dis, partout où tu m'enverras, j'irai. C'est un engagement solennel. Il y a un moment dans la vie où on prend ce genre d'engagement. Hein, et on dit, Seigneur, ce sera toi seul. Même si je perdais tout le monde. Je continuerai avec toi. Même si je devais rester seul, je veux marcher avec toi. Je veux être à ta lumière. Je veux vivre pour toi. Je veux consacrer ma vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je peux être haï, je peux être malade, je peux être rejeté, je peux même être persécuté, on peut même attenter à ma vie. J'obéirai toujours à ce que tu me demandes. Donc c'est le peuple dit cela à Josué. Mais la suite, verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. C'était une parole très dure. Mais je vous rappelle l'époque à laquelle ces choses-là ont été écrites. Aujourd'hui, on ne punit pas de mort, heureusement d'ailleurs. Mais néanmoins, on marche avec ceux qui veulent marcher, ceux qui ne veulent pas marcher. Il y a des personnes qui ont renoncé à combattre la vie chrétienne, à combattre le bon combat de la foi. Et cela, on ne peut pas les obliger. Et alors, on marche avec ceux qui veulent marcher, avec ceux qui veulent être conduits, être dirigés. C'est le quatrième exhortation. Fortifie-toi et prends courage. Alors, je vous ai souligné les trois premières fois du chapitre 1 au verset, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. C'est trois fois Dieu qui le dit. Mais la quatrième fois, c'est le peuple qui le dit. Il dit seulement « Fortifie-toi et prends courage ». Et ce que l'Église, si je peux le transcrire dans notre époque, c'est ce que l'Église dit au serviteur de Dieu, qui est responsable dans l'Église. Il lui dit « On obéira, mais toi, fortifie-toi ». Et prends courage. Ne t'effraie pas. Nous sommes avec toi. Et c'est bon, vous savez, quand dans une église, il y a un groupe comme cela. C'est que les personnes voient leur pasteur comme un responsable et comme une autorité. Bien sûr, on n'oublie jamais que c'est un être humain et qu'il peut y avoir des faiblesses. Mais ils ont dit cela à Josué et c'était un être humain. Et vous avez trois passages dans le livre de Josué où Josué n'a pas été à la hauteur de la situation. Trois fois, il ne l'a pas été. Mais cela n'empêche que le peuple a dit « Fortifie-toi et prends courage. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous suivrons, nous agirons. » Et c'est bon de soutenir. Les serviteurs de Dieu doivent être soutenus par la parole, mais par la prière, par la confiance, par l'amour fraternel. C'est pas toujours facile d'être un pasteur, pas toujours facile. Mais néanmoins, quand l'Église est là, quand les frères et sœurs prient, quand ils montrent combien ils sont fidèles et combien ils sont remplis d'affection et d'amour, alors on est encouragé et on a le désir d'avancer et de faire les choses. L'Église, c'est un corps. Ce n'est pas un ramassis de personnes, c'est un corps. Dans un corps, il y a une organisation, c'est un organisme. Et l'Église est un organisme vivant. Bien des passages nous parlent de ce que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église. Ce n'est pas une illustration que je prends au hasard, mais c'est une illustration biblique. C'est un organisme vivant. Nous sommes dépendants les uns des autres et nous avons besoin les uns des autres. Et il y a en face de nous des multitudes de choses à accomplir. Il y a en tout cas un monde perdu à amener à l'Évangile. Il y a des gens qui ne savent pas où aller. Ils ne savent pas dans quelle direction il faut aller. Et il faut que, si nous avons la lumière, et nous avons la lumière, et bien que nous puissions la propager et la porter là où il y a les ténèbres, et que ceux qui sont dans les ténèbres, et bien puissent eux aussi avoir la lumière.